14h,
la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous arrivez à l'instant sur Europe 1. J'ai 1h30 pour vous montrer que la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Ils sont jeunes et ils sont probablement les entrepreneurs de demain. Vous allez découvrir deux projets aujourd'hui. Nos experts seront là pour les conseiller, les challenger aussi. C'est la France Bouge Academy. Vous voulez faire du bénévolat, mais vous ne savez pas à quelle porte aller taper. Tousbénévoles.org vous aiguille. C'est la solution avec Elisabeth Assayag pour vous mettre en contact. Que faut-il améliorer selon vous dans les syndics? On vous pose la question et on attend évidemment vos réponses au 3921 et sur Twitter. Hashtag Europe 1. Nos invités, eux, ont fait. Vous allez voir changer les choses, c'est le dossier du jour. Et puis si vous êtes adepte de camping, vous connaissez sûrement ces produits. Cabanon, la française à 60 ans, c'est l'entreprise qui va bien, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy, c'est votre nouveau rendez-vous sur Europe 1. Ici, nous ouvrons nos portes et nos micros aux jeunes qui ont des idées et qui veulent les développer pour les accueillir à mes côtés. Comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous et bienvenue.
Et pour les écouter, les challenger, il y a évidemment, comme l'année dernière, comme pour la saison 1, notre coach. Et c'est Thomas Huriez aujourd'hui, fondateur d'Edgine 1083. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et un investisseur, aujourd'hui c'est Éric Bismuth, fondateur de Montefiore. Et qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans les studios d'Europe 1. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Raphaël.
On est ravis de vous recevoir. Face à vous, il y a Édouard Rapp. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez 26 ans et vous êtes l'un des fondateurs de Nemrod. Alors, qu'est-ce que c'est Nemrod? Eh bien, c'est une marque de produits alimentaires à base de gibier exclusivement sauvage et français. Sujet est évidemment hautement polémique, ça va probablement susciter des réactions. On vous écoute, vous allez nous dire pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure et vous avez 1 minute 30.
Merci beaucoup à tous de me recevoir aujourd'hui. Bah écoutez, il y a d'abord une chose très importante à savoir avant de commencer, c'est pourquoi on a lancé ce projet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grande partie du gibier sauvage français qui malheureusement n'arrive pas jusque dans nos assiettes, faute d'une filière peu, voire pas du tout organisée. De l'autre côté, nous avons des consommateurs, aujourd'hui de mieux en mieux informés, qui recherchent à acheter et à consommer des viandes de meilleure qualité, plus naturelles et surtout qui respectent notre corps et la planète. C'est pour ça qu'avec Vianney, mon associé, il y a un an, on a fondé Nemrod, qui est la première marque de gibier exclusivement sauvage et français, pour permettre à des consommateurs qui recherchent des viandes plus saines et plus naturelles et surtout plus durables d'y avoir accès très facilement. Alors comment ça marche? C'est très très simple. Les chasseurs qui ont du surplus de gibier, notamment seulement des grands animaux, cerfs, sangliers, chevreuils, peuvent nous les apporter dans notre atelier. Nous les cuisinons localement dans notre atelier qui est aujourd'hui situé en Alsace. Puis nous distribuons les produits en épicerie fine, dans la restauration, bar à vin, etc. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui? Des produits, notamment des super produits apéritifs. Vous en avez quelques-uns sur ce plateau, des terrines, des charcuteries. Mais on fait également des plats chauds lors d'événements, notamment notre fameux hot dog de sanglier. Tout ça avec deux objectifs principaux. C'est d'une part éviter le gaspillage du gibier qui n'est pas toujours consommé. Et de l'autre côté, permettre aux consommateurs qui souhaitent manger moins mais mieux de viande d'y avoir accès.
Le temps est écoulé, 1 minute 30 pour ce qu'on appelle le pitch, hein, n'est-ce pas? On va voir comment réagissent notre coach et notre investisseur. Thomas, Eric, qu'est-ce que vous pensez du projet de Nemrod?
Alors déjà, bravo pour le pitch et la tenue en 1 minute 30. Moi, j'avais une question par rapport au nom. D'où il vient et quel rapport avec le gibier ou la chasse?
Ah, tout à fait. Alors, il y a une explication.
Tout à fait, il y a une explication. Nemrod, c'est simplement en fait un synonyme de chasseur en langue française. Donc, c'est un mot du dictionnaire qui vient d'un personnage biblique, en fait, qui est défini comme le grand chasseur devant l'Éternel. Et c'est un clin d'œil, en fait, avec les chasseurs avec qui nous travaillons aujourd'hui et qui nous fournissent directement leur gibier.
Okay. Éric Bismuth?
Je trouve le nom excellent, d'abord. Moi, je ne suis pas du tout familier avec l'univers de la chasse. Et comme vous le disiez, je pense qu'effectivement, c'est un univers qui peut être polémique. Mais je trouve ça justement intéressant de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Mais lorsqu'on crée une entreprise, une start-up, de réfléchir à une communauté, un public qu'on va cibler et auprès de qui on va pouvoir proposer des produits différenciés. Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans votre démarche, cette idée de segmentation, de ciblage et de communauté. Et ça, pour moi, des implications, on pourra peut-être en parler ensuite, dans à la fois la communication et la stratégie de distribution.
Tout à fait. Et aujourd'hui, on s'adresse à une population de consommateurs très précise. C'est ceux qui veulent justement manger sûrement moins de viande, mais mieux, de façon plus qualitative. Et aujourd'hui, le gibier, c'est entre guillemets une ressource naturelle très durable qu'on a énormément dans nos forêts. D'ailleurs, on en a tellement qu'on ne sait même plus quoi faire avec. Donc, autant s'en servir et autant que les gens puissent en profiter, plutôt que voilà, des viandes parfois qui proviennent de l'élevage intensif, avec toutes les dérives qu'on lui connaît.
Donc, l'idée, c'est pas de gaspillage, hein, Edouard, y compris quand on chasse, on ne consomme pas forcément, ça termine dans le congélateur et parfois on jette. C'est ça l'idée, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus justement ce gibier amassé et jeté à la poubelle.
Tout à fait, c'est tout à fait ça l'idée. Aujourd'hui, on chasse près de 1,5 million de grands animaux chaque année en France. Et c'est un plat en fait qui n'est plus du tout à la mode, qui n'est plus du tout dans les mœurs, notamment avec des consommations de plus en plus citadines, un petit peu déconnectées de ces réalités, on va dire, rurales. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaye de remettre au goût du jour. Et ce sont des viandes en fait extrêmement qualitatives et qui ont un empreinte carbone pratiquement nulle. Si je vous demandais l'empreinte carbone d'un chevreuil ou d'un sanglier, vous auriez bien du mal à mettre un chiffre derrière.
Elisabeth,
vous dites que vous fabriquez des terrines, de la charcuterie. Comment ça se passe? Vous êtes entourée de personnes dont c'est le métier? C'est vous qui les fabriquez?
Tout à fait. Alors, moi, je suis chasseur au départ. Mon associé Vianney a plutôt le côté cuisine et une formation en conserverie. Et on s'est associé avec une troisième personne qui avait déjà un atelier et qui a pu nous accompagner dès le début, qui a cru dans le projet tout au début et avec qui on fabrique encore l'ensemble de nos produits. La suite du projet, c'est maintenant de pouvoir posséder notre propre atelier.
Thomas?
Moi, je pense qu'on est nombreux de consommateurs à effectivement ne pas savoir le cuisiner, le gibier, donc c'est assez pratique finalement d'ouvrir une boîte de conserve. Par contre, si ce marché augmente, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où les invendus de ces gibiers chassés vont manquer par rapport à votre offre? Ou alors il y a tellement de gibier en France qu'on gagnera plus les chasser? Expliquez-nous.
Alors je me le souhaite, qu'un jour l'offre de gibier soit tout à fait finie, qu'il y en ait plus, ce serait bien. Et de toute façon, après, le problème serait européen. Donc pourquoi pas ensuite aller en Espagne, en Allemagne, en Autriche, qui ont en fait les mêmes problématiques d'écoulement de la venaison.
Vous savez ce que vont vous répondre les défenseurs des animaux? Parce que je suppose que c'est un sujet avec eux, forcément.
Tout à fait, c'est un sujet avec eux, mais pour la petite anecdote, aujourd'hui on a des gens qui étaient végétariens, on va dire plutôt flexitariens, qui ont accepté de goûter nos produits en fait, puisqu'ils nous disaient qu'ils avaient arrêté de manger de la viande à cause des dérives de l'élevage intensif, et qui disaient que puisque c'était là des viandes extrêmement naturelles, des animaux sains, sauvages, etc., ils acceptaient de manger ce type de viande.
Éric Bismuth?
Une des questions que je me poserais à votre place, c'est si je réussis à développer ce marché, il y aura souvent des concurrents qui vont apparaître. Et donc, pour gagner de l'argent à long terme, quels vont être mes avantages concurrentiels durables? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question?
C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'installer une marque forte autour du gibier. On s'est aujourd'hui installé sur un marché avec extrêmement... beaucoup en fait de petits acteurs sur un marché très atomisé.
115 points de vente, c'est ça aujourd'hui,
hein,
alors
ça,
dans des épiceries essentiellement.
Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, nous on essaye d'imposer la marque Nemrod et que dans quelques années, ce soit reconnu et qu'on se dise, ok, Nemrod, ce sont des produits sains, qualitatifs, français, comme les jeans 1083. Voilà, sont fabriqués en France. On l'a tout de suite en tête.
Vous pourriez demain être dans la grande distribution, c'est un des objectifs ou pas?
C'est pas forcément un des objectifs, puisqu'on cherche à travailler avec des gens qui puissent parler nos produits, qui ont le goût des choses bien faites. Et je pense que de toute façon, on n'aura peut-être jamais les volumes pour aller en grande distribution.
Éric Bismuth, Thomas Hurez, vous êtes convaincu par le projet Nemrod qui a démarré en 2018, mais les premières ventes sont assez récentes, hein, il y a quelques mois seulement.
C'est ça, on a démarré nos premières ventes au 1er février 2019. Et on a déjà aujourd'hui plus de 120 points de vente, donc clients professionnels qui nous recommandent pratiquement chaque mois.
Oui, moi je trouve le projet super intéressant dans l'offre, dans la démarche. Après, le nom, je le trouve un peu loin de l'offre. C'est-à-dire que pour moi, c'est un nom d'ordinateur ou je ne sais pas, ça ne fait pas un nom de bouffe. J'aurais presque dit jagibier ou je ne sais pas, un truc qui fasse le lien entre l'acte de consommation et l'offre. Voilà, c'est ma seule remarque, sinon je trouve ça super intéressant.
Vous aimiez bien le nom, Éric Bismuth.
Moi j'adore le nom, il faut peut-être donner un mode d'emploi pour que les gens le comprennent. Mais une fois qu'on l'a compris, moi je le trouve au contraire très puissant et très symbolique. Et moi j'aurais l'obsession de renforcer effectivement le plus vite possible les avantages sur la marque, le réseau de distribution, essayer d'atteindre 500 points de vente et faire les investissements nécessaires pour y arriver, et la qualité des produits, ce que vous semblez avoir commencé à faire. Donc moi, je trouve votre projet très intéressant.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le prix de vos produits. Quelle est la fourchette pour, par exemple, les terrines qu'on a ici?
Aujourd'hui, en fait, on a l'avantage d'acheter du gibier pas forcément très cher. On ne le cache pas sur notre business model puisqu'on récupère des surplus qui seraient sinon destinés au gaspillage. Et du coup, on permet en fait de sortir des produits extrêmement qualitatifs, pas forcément très chers. Donc un petit pot de terrine comme ça, ça sort autour de 5 euros. Et du gendarme de sanglier dont vous avez aussi ici, qui est une charcuterie typique de l'Est de la France, aussi pour 4 euros, 5 euros, vous le trouverez en épicerie.
Merci Edouard.
Merci beaucoup.
Vous nous tenez au courant du développement de Nemrod. C'était le premier projet aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 40.
Europe 1.
La France Bouge Academy, c'est votre nouveau rendez-vous. Vous avez une idée pour entreprendre, vous souhaitez en parler à l'antenne. Venez rencontrer nos coachs, nos investisseurs. Ils vous donneront les clés pour réussir. Et pour ça, vous nous écrivez sur Twitter, @Europe1. Vous pouvez nous écrire également sur notre toute nouvelle adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et puis nous appeler 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Et ensuite, eh bien, le studio vous attend avec nos experts pour évaluer votre projet et vous conseiller. Alors, face à nos experts, aujourd'hui, Thomas Huriez et Eric Bismuth pour Legend 1083 et le fonds d'investissement Montefiore, il y a Romain Labbé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un sportif et c'est, je crois, assez logiquement que vous avez eu, à la fin de vos études, envie de vous tourner vers cet univers avec Feeling. Ça s'écrit P-H-Y-L-I-N-G. Une start-up qui cherche à optimiser les équipements sportifs pour aider les athlètes à être encore plus performants. Vous avez, vous aussi, 1 minute 30 pour tout nous dire.
Bonjour. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, il y a un vrai besoin d'objectiver le ressenti des athlètes. C'est-à-dire que les écarts deviennent très faibles entre les athlètes et la moindre chose peut faire la différence. Et donc, on voit que pour leur performance ou alors pour la prévention des blessures, ils ont vraiment ce besoin d'objectiver tout leur ressenti, donc d'objectiver leur feeling. Et donc, nous avons développé une solution qui est multisport et qui est innovante et qui consiste à coller des capteurs miniatures connectés directement sur les équipements des sportifs, donc les équipements existants. Et ensuite, le coach reçoit sur son téléphone ou sa tablette, en temps réel, les données mesurées et permet ainsi de travailler directement sur le terrain, sur les mouvements. Donc notre solution a été co-développée avec le haut niveau et est aujourd'hui déjà utilisée dans certains sports. Donc le premier sport sur lequel on a commencé, c'était sur le tir pour l'équipe de France de pentathlon. Et le coach avait comme problématique, c'était qu'il voulait connaître la pression du doigt du tireur sur la queue de détente. Parce que le geste que fait le tireur est vraiment déterminant sur sa performance. Et donc il avait besoin de connaître ça, mais il n'avait aucun moyen de le savoir. Donc nous avons développé nos technologies, nous l'avons mis sur la queue de détente des tireurs. Et donc maintenant il reçoit en temps réel l'information sur sa tablette, ce qui lui permet de travailler sur le terrain. Nous travaillons aussi avec l'équipe de France de cyclisme ou de voile, et aussi avec le Racing 92 pour tout ce qui est mesure des pressions au sol. Donc on a des crampons connectés qui permettent de connaître la pression lors des impacts pour savoir s'il y a des risques de blessures ou pas. Et nous avons aussi équipé des joues, donc des pour les systèmes d'entraînement à la mêlée. Pour, voilà.
Le temps est écoulé, mais on a des questions pour vous,
secondes,
forcément. Eric Bismuth, Thomas Huriez. Eric, peut-être une première réaction à Feeling.
Alors, Feeling, est-ce que vous allez vous adresser uniquement aux sportifs de haut niveau ou est-ce que votre application a un potentiel au-delà sur un public plus large? Voilà.
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui pour les athlètes de haut niveau. Et donc, nous avons commencé en fabriquant des prototypes pour les athlètes de haut niveau. Maintenant, tout ce qu'on cherche à faire, c'est à travailler avec des équipementiers pour pouvoir atteindre un public plus large, un public qui a quand même un certain niveau, mais nous cherchons justement à développer et à vendre plus largement via des équipementiers en équipant notre solution directement dans les chaînes de production.
Thomas, notre coach.
Moi, j'avais une question sur le modèle économique.
Oui.
Du coup, vous vendez des capteurs ou vous vendez une application ou vous vendez un service d'accompagnement des entraîneurs ou des sportifs?
Alors, aujourd'hui, on vend directement aux sportifs et aux entraîneurs, donc essentiellement des fédérations, donc des Pôles France. On leur vend le capteur et le service qui va avec pour la compréhension de la mesure, etc. Et ensuite, le but, c'est de revendre ça. Donc, c'est de tout ce qu'on développe avec eux, où la propriété intellectuelle nous appartient, c'est d'aller voir les équipementiers pour leur proposer de l'intégrer directement à leurs équipements. Et donc là, on arrive avec une solution globale directement pour répondre à un besoin sur le terrain.
Vous nous avez amené un petit outil de démonstration.
Exactement.
Donc je vais demander à Céline de nous servir de cobaye. Hein.
Voilà.
Alors on a un pistolet et vous allez, Céline, appuyer sur la détente pour voir sur le téléphone la pression qui est exercée. Et
exactement.
On va comme ça comprendre exactement, pour ceux qui nous suivent sur Europe 1.fr, ce que ça donne. Voilà, donc Céline, c'est fait. Et on voit effectivement sur le téléphone qu'il y a un graphique qui s'affiche et avec une pointe au moment où Céline a appuyé. Je ne sais pas si elle a appuyé assez fort.
Ouais. Bah là, elle appuie très fort.
Voilà, elle appuie très fort. Donc là, ça monte très, très haut.
Voilà.
Est-ce que ça s'adapte à tous les types de sports?
Alors, ça s'adapte à tous les sports. Après, ça s'adapte au sport mécanique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un support mécanique. C'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre sur un t-shirt ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit sur un équipement. Donc en tir, voile, vélo, aviron, kayak, etc. Ça s'adapte très,
aviron
très bien.
Que vous connaissez bien d'ailleurs.
Aviron, voilà, j'ai fait.
Éric Bismuth.
Oui, est-ce que vous avez la possibilité de déposer des brevets? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et quelle est votre stratégie pour la suite dans ce domaine? Voilà.
Alors nous, donc notre solution n'est pas brevetable à proprement dit. Par contre, nous avons des brevets d'intégration. C'est-à-dire pour chaque sport, la façon de faire est brevetable. Et donc nous avons déjà deux brevets, un pour les queues de détente justement sur le tir, et un autre sur les crampons, sur la façon de faire de la mesure dans les crampons. Et après justement, le but c'est de valoriser ces brevets avec les équipementiers. Mais voilà.
Thomas, le coach.
Toujours pour le côté business, j'imagine que ça demande beaucoup de R&D.
Ce travail-là.
Comment vous financez du coup? C'est des levées de fonds? C'est votre travail en off qui a permis d'aboutir à ces premiers produits? Comment ça s'est passé?
Alors, donc nous, ça fait un an qu'on travaille à plein temps là-dessus. On avait travaillé un petit peu avant pendant nos thèses. Donc on est deux cofondateurs, deux docteurs de l'école polytechnique. Donc on avait travaillé déjà un petit peu là-dedans. C'est quand même notre domaine. Et après, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait des clients qui voulaient des prototypes avant qu'on ait créé l'entreprise. Donc en fait, on a créé l'entreprise avec du chiffre d'affaires et c'est ce chiffre d'affaires qui nous a permis de vivre la première année. Et maintenant, donc on envisage une petite levée pour l'année prochaine.
C'est-à-dire combien il vous faut aujourd'hui pour vous développer?
Alors aujourd'hui, on aimerait, dans le cas rêvé, on aurait besoin de 300 000 pour l'année prochaine, pour l'année 2019.
Éric Bismuth.
Mais après, on a déjà beaucoup d'aide. Il y a la BPI qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs, qu'on remercie beaucoup, qui va encore, on espère, nous aider. Donc il y a pas mal de choses. Donc on est en train de voir justement pour tous les financements comment tout va s'articuler, se régler. Et surtout une question de timing.
300 000, ça vous semble quelque chose de bien? Alors, pour faire avancer le projet?
Comme vous le savez, nous sommes plutôt spécialisés dans le développement de sociétés déjà bien établies. Mais dans le cadre de votre projet, oui, je pense que c'est au minimum ce qui est nécessaire. Voilà. Parce que je trouve que ce serait dommage d'aller trop vite vers la commercialisation auprès de beaucoup de clients. Le business model dont on parlait tout à l'heure, il n'est probablement pas encore complètement établi. Ouais. Et ce qui me paraît le plus important pour la vision à long terme de l'entreprise, c'est à nouveau la capacité à avoir un avantage concurrentiel durable à travers les brevets. Et donc moi, je mettrais vraiment de l'argent, et peut-être plus que 300 000, sur l'accélération de la R&D et le dépôt des brevets.
Thomas.
Après, si je peux me permettre de faire l'antithèse, non pas en tant qu'investisseur, mais en tant qu'entrepreneur.
Mais c'est intéressant.
C'est que quand on lève des fonds, on se retrouve avec des partenaires, des associés, qui gagnent de l'argent en prêtant de l'argent. Il n'y a pas de problème. Vous en vendez en vendant des charcuteries, vous des capteurs. Mais le problème, c'est que donc ils rentrent avec une certaine valorisation de la société au début. Et si votre société fait x10, et ben leur part va le x10. Et donc plus vous travaillez, mieux vous travaillez, plus leur part va le cher. Moins vous êtes en capacité de les reprendre peut-être, et donc plus vous vous retrouvez dépendant du partenaire qui remplacera le premier financier. Ah oui. Et donc on met le doigt dans un système qu'il faut connaître, c'est pas bien ou mal, c'est juste qu'il faut en avoir conscience quand on démarre. Et donc c'est la seule mesure que je dirais à ces propos.
On en a totalement conscience, c'est pour ça que la première année justement on avait tenu à créer du chiffre d'affaires et à vivre sur notre chiffre d'affaires. Maintenant on est en train de voir justement pour la suite à quel point c'est viable et à quel point on fait des rentrées d'argent. Avec notre chiffre d'affaires.
Moi,
à nouveau, moi, je pense que la chose qu'on peut vous souhaiter le plus possible, c'est que vous permettiez à d'autres de faire x10. Ça veut dire que vous aurez fait x100, ou x 1000, ou x 10 millions. Et si vous le faites intelligemment, évidemment, eh bien, et avec des partenaires de qualité, c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
Merci Romain, vous nous tenez au courant que vous fassiez x10 ou x100, hein, et vous revenez évidemment nous en parler ici sur Europe 1. Merci Éric Bismuth d'avoir été avec nous. C'était
plaisir.
La première, on est ravis de vous avoir dans notre équipe.